Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
À deux personnes.
Et le travail des pompiers et des pompières est de mettre leur vie au service de celle des autres. Et on en a aujourd'hui une autre preuve très forte. Hier, en soirée, lorsque j'ai été informée de la disparition du pompier Lacroix, tout le monde a retenu son souffle. On savait que le fleuve Saint-Laurent, ben, il est froid, il y a des rapides, il fait noir, mais on s'est dit, faut qu'on le retrouve et il doit être en vie. Ce matin, beaucoup de tristesse, c'est une tragédie qui affecte beaucoup de gens.
Ouais, on imagine dans la caserne, les collègues, etc., là, on imagine un peu la détresse. Mm-hmm. On dirait que c'est une manque. En plus, en voyant la vidéo, là, t'sais, ça arrive parce que l'intervention, au moment de la vidéo, l'intervention a l'air pas si pire que ça. On comprend qu'il y a du courant, ça brasse, il fait noir. Là. Je dis pas que j'aurais voulu être là, mais ça a pas l'air à brasser. Il y a quand même une personne qui filme, là, qui est sûrement que c'est une personne c'est une des personnes qui est dans le bateau qui va être secourue, doit être très contente de voir arriver les pompiers et tout ça. Et là, tout à coup, on voit dans l'image de la caméra, les gens voient l'image, on voit une grosse vague. Et là, on entend la dame dire, ils ont chaviré, ils ont renversé, etc. Puis on comprend, on voit plus, là, parce que là, elle échappe son sel, mais on comprend bien là, ce qui vient de les choses viennent de basculer et dans le cas de monsieur Lacroix, ben c'est carrément c'est la vie qui a basculé pour lui. On a eu un témoignage plus tôt dans l'émission très touchant d'un de ses amis et voisins là, sur un homme très impliqué, engagé, connu de tout le monde dans le quartier, généreux et ce que ses proches disent, c'est il est mort comme il a vécu en aidant les autres.
Beaucoup de nouvelles aussi sur la scène judiciaire, Mario. Ça a déboulé là en deuxième moitié de journée, notamment celle-ci, un arrêt des procédures dans le procès criminel qui impliquait l'ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, tout ça en raison de l'inconduite de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC. Sérieusement, là, c'est une autre claque en plein visage pour l'UPAC. Et la juge a été très dure, pour en rajouter,
la juge n'a pas juste dit j'ai ce qu'il me faut pour un arrêt des procédures. Elle a quand même distribué des blâmes sévères.
Oui, je te résume ça rapidement là. Bon, la juge Nancy McKenna au palais de justice de Saint-Jérôme a dénoncé les représentations trompeuses, les propos mensongers, la malhonnêteté destinée à cacher de la preuve potentiellement favorable aux accusés. C'est pas rien des propos comme ça. Petite histoire, rappelons que bon, l'ancien maire Robitaille, mais il n'était pas seul, son ex-chef de cabinet Daniel Bellec, l'ancien DG aussi adjoint Luc Papillon de la ville et un entrepreneur Normand Trudel, ben ils étaient accusés de corruption dans les affaires municipales, d'abus de confiance aussi. Ils avaient été arrêtés, il faut remonter à 2018, par l'UPAC dans le cadre de l'enquête Mediador. Mais tous ces gens-là, Mario, cet après-midi, sont sortis du palais de justice de Saint-Jérôme, libres comme l'air.
Tout à fait. Ah ouais, absolument. C'est la fin. Ah ben, remarque, il doit rester, là, j'ai pas regardé tous les détails juridiques, il y a sûrement des délais d'appel, des possibilités d'appel de la part de la couronne, mais là, avec les remontrances qu'elle leur a fait, à moins que vraiment la juge a erré ou a échappé des morceaux, mais on a un peu l'impression qu'avec avec les remontrances que leur a fait la juge, là, on va fermer le dossier, là. C'est l'impression que ça donne, en tout cas.
Qu'est-ce qui reste de crédibilité à l'UPAC, honnêtement, après tous ces contre-coups-là?
Ben en fait, l'UPAC mettra... Parce que là, l'UPAC a changé complètement de direction. Mm-hmm. M. Frédéric Gaudreau, qui est là maintenant, dira probablement que ça faisait partie des nombreux dossiers de l'ancienne administration qui lui étaient laissés, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Je dois dire, moi, personnellement, par exemple, que ce n'était pas un des dossiers que j'avais, tu sais, bon, par exemple, l'arrestation de Guy Ouellet, là, quand il est arrivé le nouveau patron de l'UPAC, oui. On savait bien que ça, comment dire, ça allait pas bien tourner. C'est sûr que c'était un dossier là, mal engagé, puis il y avait enquête, puis enquête sur l'enquête, puis on savait bien que pour lui, ça c'était un encombrement. Mais le dossier de Terrebonne, ben, en tout cas, moi, j'en savais rien de particulier. C'était un dossier où l'UPAC avait procédé à des arrestations, puis ça allait à procès. Ben, quand il y a un procès, là, tu sais pas, l'issue du procès, tu peux pas savoir est-ce que les gens vont être condamnés ou pas, mais... Je pouvais penser que ça allait être un procès, là, tu sais, que l'UPAC allait arriver, présenter sa preuve, puis là, ensuite, le procès allait suivre son cours. Alors, sincèrement, je n'avais pas vu ce dossier-là comme étant une tuile potentielle pour l'UPAC, là, qui se rendrait même pas à terme, parce que ça allait finir avant le temps, sur un arrêt des procédures, parce que les policiers de l'UPAC, ou la couronne se fait accuser d'avoir caché de la preuve, etc. Alors, oui, c'est un coup dur, parce que c'est pas... Je pense pas que c'est un dossier que personne avait sur son écran radar, puis là, ben, on se dit tous, ben voyons. Un autre. C'est carrément ça, un autre dossier qui tourne mal, mais que la nouvelle administration, à sa défense, quand l'actuel patron de l'UPAC est arrivé, c'était déjà en cours. Là. C'était déjà le dossier, les arrestations étaient faites, l'enquête était faite. C'est un dossier qui était déjà tout ficelé. Donc, on peut pas blâmer l'actuel commissaire de l'UPAC, M. Gaudreau, pour celle-là.
On a eu aussi un développement qui nous amène peut-être un éclairage intéressant dans le dossier de la fraude chez Desjardins, parce que plusieurs personnes commencent à se dire, voyons, comment ça se fait que c'est long comme ça avant qu'il y ait des arrestations dans ce dossier-là? Là, on apprend, grâce à un juge qui a permis donc la publication de certains documents judiciaires, que l'ex-employé de Desjardins, qui est le suspect numéro un dans cette histoire-là, qui avait fait l'objet de reportages à JE, entre autres, Sébastien Boulanger d'Orval, celui qui aurait donc commis le vol massif de données personnelles, a pu effacer une partie du contenu de son ordinateur quand il a senti la soupe chaude, quand il a senti des soupçons de la part de son employeur. Parce que, ramenons-nous à cette époque-là, là, Desjardins soupçonnait à l'interne là qu'un employé du département de marketing, donc Boulanger d'Orval, faisait de l'extraction illégale de bases de données, des noms, des coordonnées personnelles, des informations bancaires sur de nombreux clients. Parallèlement à tout ça, donc en plus des soupçons à l'interne, il y avait la police de Laval qui faisait enquête. Mais la police de Laval a dit, non, attention, Desjardins, dites rien, restez discrète, entreprenez pas des démarches pour saisir l'ordinateur de Boulanger parce que on veut éviter de lui mettre la puce à l'oreille. Mais visiblement, l'employé a découvert qu'il était traqué, selon ce que dit la police de Laval dans ces documents-là, et c'est à ce moment-là qu'il aurait effacé les données. Et pas plus tard même, à un certain moment donné, en mai 2019, ça c'est un mois, Mario, avant que Desjardins sorte publiquement en disant, ben, on a été victime de vol de données, 9,7 millions de clients sont touchés, des clients actuels et des clients du passé. Actuellement, c'est la SQ qui fait enquête là-dessus, mais toujours aucune arrestation n'a eu lieu, même s'il y a une dizaine de suspects, incluant Boulanger d'Orval, qui sont dans la mire des autorités depuis.
Mais c'est... Ça, c'est un dossier qui est en train de choquer vraiment. D'abord, au Québec, là, c'est pas compliqué. Là. La proportion, le pourcentage de la population qui est touchée, c'est incroyable. C'est, tu sais, la quantité de gens qui ont eu... Puis même les gens, tu parles à des gens qui font pas comme... J'en suis un, moi. T'sais, j'ai pas toutes mes affaires chez Desjardins, mais j'en ai un peu, puis j'en ai c'est eu ça, en masse au fil des années. Mais c'est quoi la proportion de la population du Québec qui a jamais eu un compte chez Desjardins ou une carte de crédit Desjardins? C'est pas tant de monde que ça. Donc, c'est presque tout le monde. Et ça a des impacts, et c'est ce qui est le plus fou, c'est que c'est le dossier de la PCU qui est le premier grand dossier qui nous a montré l'ampleur des impacts, parce qu'il y a eu beaucoup de fraude à la PCU. En fait, c'est phénoménal comment il y a eu de la fraude à la PCU. Mais quand tu la distribues à travers le Canada, la fraude, il y a beaucoup plus de fraude, de victimes de fraude au Québec. Et tous les experts s'entendent pour dire c'est pas parce qu'il y a eu plus de malhonnêtes au Québec ou que les gens malhonnêtes ont visé les Québécois parce qu'ils aiment pas les Québécois. C'est pas un hasard, c'est qu'au Québec, pour créer un faux compte, les données sont disponibles, les listes circulent avec les noms, les adresses, les numéros d'assurance sociale. Donc, les Québécois sont plus, j'invente un mot, mais sont plus fraudables. Les Québécois sont plus susceptibles d'être victimes de fraude parce qu'il y a eu une fuite aussi massive, aussi extrême, aussi énorme, de données, puis espèce de le petit paquet de données complet là, où t'as tout ce qu'il faut pour faire une opération. Dans le cas de la PCU, là, t'as tout ce qu'il faut pour faire la demande au ministère, créer le compte de banque, faire déposer l'argent frauduleusement, puis Et incroyable. Donc, c'est de penser que ces gens-là, on commence à se demander, mais est-ce qu'ils vont être punis? Est-ce qu'ils vont être punis aux criminels? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que Desjardins, on va toujours, Desjardins un jour va devoir répondre d'une façon complète, là. Avez-vous bousillé l'enquête policière? Parce que les policiers ont jamais eu de bonne, ont jamais eu l'air de bonne humeur contre Desjardins.
C'est vrai.
On n'a jamais rien dit, mais maintenant on sent, on lit entre les lignes, on entend entre les branches. Et les policiers enquêteurs ont toujours laissé entendre que c'était pas facile, alors que, ben, nous, on est tous, c'est comme citoyens victimes d'une fraude, mais Desjardins aussi, d'une certaine façon, s'est fait frauder, donc devrait collaborer avec la police au plus haut point. Bon. Est-ce que Desjardins protège son image? Est-ce que Desjardins a fait des gaffes? On le saura peut-être un jour, peut-être jamais.
Ouais. Et on va conclure ce bloc judiciaire avec le procès de la belle-mère de la petite fille martyre de Granby qui s'est amorcé aujourd'hui. On sait que dans les prochaines semaines, il y a une vingtaine de témoins qui vont être entendus au palais de justice de Trois-Rivières. C'est-à-dire qu'on a relocalisé le procès. Ça n'aura pas lieu à Granby. C'est du côté de Trois-Rivières. Et on en a appris davantage sur les circonstances entourant le décès tragique qui avait bouleversé tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, la femme qui est âgée de 38 ans, la belle-mère est accusée de meurtre non prémédité, de séquestration de la petite fille qui avait 7 ans au moment du décès. Elle avait été retrouvée dans la résidence familiale, c'était le 29 avril 2019, avant de succomber le lendemain là de la suite là, de son état, de ses blessures. Maintenant, on a entendu le témoignage, entre autres, je pense que c'était un des plus marquants, là. Le premier policier de la ville de Granby qui est arrivé là, sur les lieux du drame, autour de 11h35 cette journée-là, il s'appelle Martin Noël et il a vraiment décrit une scène extrêmement marquante. C'est-à-dire il entre dans la pièce, pas de lit, pas de commode, des meubles empilés le long de la fenêtre, il y avait rien du tout au sol. Et il a découvert au sol justement le corps de la petite fille, un corps vraiment rachitique qu'il comparait à celui d'une personne qui vit dans des pays du tiers-monde là ou quelque chose du genre, donc avec de la malnutrition, a tenté
elle
de faire
est
des
nue,
manœuvres.
Elle est nue avec des tapons de ruban gommé là du tape, oui. Là, à côté d'elle, des boules de exact. Tape à côté d'elle, visiblement donne l'image du tape qui vient d'être enlevé. Tu sais, on saura ça, on sait peut-être pas là, mais.
Ouais. Mais effectivement que ça nous laisse planer cette hypothèse là. Essaie de faire des manœuvres de réanimation sur la petite. Pas de pouls, pas de respiration. Et là, je le cite là. Elle a un regard vide, un œil fermé, un œil à moitié ouvert. Et des marques, des blessures sur son corps frêle. Et on a présenté aussi l'appel au 9-1 au jury aujourd'hui. C'est point. Je te décris ça, là, puis j'ai
Ah, mais c'est une scène de... Sincèrement, c'est une scène de film d'horreur, là, ni plus ni moins.
Oui.
Que ce policier-là a vécu, là, un enfant rachitique. La chambre, là, j'avoue que la chambre, il y a une part de mystère. Les meubles empilés le long de la fenêtre. Elle est comme couchée à terre, nue. Dans une chambre où il dit qu'il fait anormalement chaud, lui dit on sent une chaleur là. Mm-hmm. Est-ce que c'était pour la faire souffrir? Dans une chambre, il fait anormalement chaud et couché. C'est une scène d'horreur. Là. T'arrives sur une enfant qui est entre la vie et la mort. J'ai hâte de voir comment ce procès-là va. En fait, je suis curieux de voir la défense. C'est un peu ça, là. La fond de ma pensée, j'ai hâte puis j'ai pas hâte. Là. Je résumais ça en disant que je suis curieux de voir. C'est quoi la défense dans une affaire de même, là, face à son devoir par rapport à un enfant, puis comment, qu'est-ce qui se passait, là? En bon québécois, qu'est-ce que c'est ça, là? Mais c'est, je pense que pour le public, là, ça c'est révoltant, parce qu'on en savait tous des petits bouts de ça, là, hein? T'sais, on était dans une pièce, on savait tous des... Il y a du ruban gommé, ça avait traîné, ça avait été dit dans l'histoire, mais... Sauf que là, un procès, c'est un procès, là, c'est les descriptifs précis, les faits détaillés, des témoins. Exemple, lui, le policier, il est entré. Et j'ai l'impression que ça va être dur à suivre là, dans les prochains jours.
Tout savoir en 24 minutes.
Politique maintenant, Mario. Discours d'ouverture demain du premier ministre François Legault qui relance donc les activités. Nouvelle session, on repart à neuf. Et en fin de semaine, il avait un peu commencé à mettre les grandes lignes là, de ses intentions, publié un long texte sur sa page Facebook, a publié aujourd'hui une vidéo sur les réseaux sociaux.
C'est une drôle de vidéo, c'est quoi? Comment t'appellerais ça? C'est une vidéo promotionnelle la veille?
Ben, une vidéo de campagne électorale, quand je regardais ça, j'avais un peu l'impression, bon, c'est dans la dernière année du mandat de M. Legault, et il y a des grands thèmes, là. Les choses doivent changer, on peut pas redevenir comme c'était avant la pandémie, on peut pas continuer à faire les choses comme avant, c'est le temps de se projeter vers l'avant. C'est sûr que bon, là, il peut pas tout dire parce que ce serait un outrage au Parlement. Mais bon, il faut changer maintenant ce qui ne fonctionne pas, dit le premier ministre. Il parle, il fait référence à la santé, l'avenir des jeunes, l'économie, la cohésion nationale aussi. Déjà, quand même, les oppositions ont réagi. Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, dénonce une gestion à court terme. Dominique Anglade dit que François Legault n'est pas à l'écoute des gens du tout. Et Gabriel Nadeau-Dubois, de QS, est d'avis que la prorogation du Parlement, c'est une simple procédure parlementaire puis que ça changera rien dans la vie des gens. Mais je suis curieux de t'entendre, toi, Mario. À quoi tu t'attends demain dans le
discours? C'est pas faux que ça change rien. Souvent, on a un discours comme ça quand le gouvernement est... T'sais, à mi-mandat, un peu en déroute. C'est pas rare qu'à mi-mandat, t'as des mauvais sondages. Et tu dis là, regarde, comme gouvernement, là, on s'est égaré, on s'est perdu dans mille et une priorités. On n'accomplit plus, on fait juste réagir à l'actualité, on n'accomplit plus rien. Et là, le premier ministre va vouloir redonner un élan à son gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui est très en avance dans les sondages, donc on pourrait même être tenté de dire, t'sais, quand ça va bien, il change rien. Mais François Legault a quand même senti le besoin de dire, il me reste un an dans mon mandat, on a été beaucoup dérangés, mais c'est un euphémisme. On a été énormément dérangés par la pandémie à tout point de vue, là, financier, réseau de santé, tout un mois perdu, là, des mois où on parlait juste de la COVID, il n'y a pas d'autre chose qui s'est accompli au Parlement. Là. Donc, pour toutes ces raisons-là, il dit, je sens le besoin de remettre mon gouvernement, remettre les yeux, disons, de mon gouvernement bien fixés sur quelques grandes priorités, faire un discours inaugural, donc un programme d'action pour l'année qui vient. Mais... comme on dit, ça changera pas le monde. Ça va rester le même gouvernement. Ça peut être bon pour l'action gouvernementale. Je pense qu'il y a aussi une volonté partisane de bien repositionner le gouvernement à la veille des élections. Il y a une combinaison des deux. Et on va être attentif, là. Qu'est-ce qu'on va dire sur la pénurie de main-d'œuvre? Qu'est-ce qu'on va dire sur l'état du système de santé? Mm-hmm. C'est certainement deux énormes sujets sur lesquels je vais être attentif demain. Après ça, ben, quelles sont les grandes priorités du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement va édicter comme ses priorités centrales pour l'année qui vient? Donc, je pense que c'est pas inutile comme exercice, mais l'autre affaire, c'est que ça aurait été, ce qui est un peu unique, ça aurait été un bien faible dérangement dans l'automne parlementaire, parce que tu sais que il y a deux semaines, la Chambre siégeait. Parce que généralement, une prorogation, tu vas prendre un congé de Parlement d'un mois ou deux, là, tu vas arrêter la Chambre. Mais dans ce cas-ci, là, l'Assemblée nationale siégeait il y a deux semaines. La semaine passée, donc ça a été prorogé à la fin de la semaine. La semaine passée, elle siégeait pas, mais elle siégeait pas de toute façon. C'était la semaine de relâche parlementaire. C'est la semaine que les députés se gardent pour travailler dans leur circonscription, etc. Donc, c'était de toute façon la semaine de relâche parlementaire. Et demain, ils reprennent, demain mardi, comme d'habitude. Donc, essentiellement, il n'y a pas une journée de Parlement qui va s'être perdue. Donc, ce qui fait que... c'est pas une si grosse révolution que ça, là. Le Parlement siégeait il y a deux semaines, il recommence demain, mais plutôt que de recommencer en travaux réguliers, il recommence avec un discours inaugural. Donc, une occasion un peu unique de M. Legault de recentrer l'action de son gouvernement autour de ses priorités.
Et on aura la réponse donc demain, 14h. Oui. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui, était du côté de Kamloops, en Colombie-Britannique, pour rencontrer les membres de la communauté autochtone là-bas. Une rencontre douce-amère, selon la chef Rosanne Casimir. On sait que c'est du côté de Kamloops que des tombes anonymes du pensionnat ont été retrouvées. Deux choses par rapport à ça. D'un côté, Justin Trudeau... c'est un peu un rendez-vous manqué, c'est-à-dire qu'il devait, il avait été invité à s'y rendre lors de la journée Vérité-Réconciliation, un congé qu'il a lui-même créé, mais il avait préféré d'aller du côté de Tofino, une station, ma foi, magnifique, là, de la Colombie-Britannique en vacances avec sa famille. Ça avait choqué les Premières Nations, les communautés là-bas. Donc, M. Trudeau, aujourd'hui, a réitéré ses excuses en disant reconnaître le tort qui a été fait était important. Et il a, encore une fois, sans rentrer principalement dans les détails, mais dit que des actions concrètes seront prises dans un contexte de réconciliation. Continuer de travailler ensemble maintenant. Bon, c'est pour ça que c'est un peu doux-amer aussi. Les communautés autochtones voulaient peut-être, Mario, des engagements un peu plus importants. Ils n'auront eu que la phrase traditionnelle de Justin Trudeau, continuer à travailler ensemble.
Ouais, mais ils ont quand même été très durs. Je sais pas, le premier ministre s'est rendu dans ta communauté. Oui, c'est vrai qu'il s'était fait reprocher de pas être allé, mais en même temps, le premier ministre s'est rendu là. Les gros reproches, à quel point il avait été déçu et tout ça. Pff, Je comprends que tout le monde est content de ça, là, puis les journalistes de partout au Canada, ça semble, je vois ça, là, se trouver ça. C'est vrai que c'est amusant, là, parce que la madame est assise à la conférence de presse à côté de Justin Trudeau, puis elle te le plante. Il y a un côté
oui,
amusant. Tu dis le premier ministre, il se fait mettre ça d'en face, qui ont été déçus, choqués, puis nomme-en. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même le premier ministre du Canada. Vous direz probablement des villes et villages au Canada, là. Des villages de 1000 habitants et moins qui seraient contents d'avoir le premier ministre pour leur dire qu'est-ce qui se passe dans leur communauté, puis quel problème qu'ils ont avec leur pêche, avec leur usine, avec leur centre communautaire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le prendraient, là, aujourd'hui. Puis toi, tu l'as. Fait que, est-ce que tu lui racontes tes problèmes, puis t'essaies de travailler avec lui à trouver des solutions, ou est-ce que tu l'insultes? Je trouve que la question se pose quand même. Là. Je sais que je suis peut-être minoritaire aujourd'hui sur celle-là, mais moi, ça m'a pas amusé tant que ça. Je me disais, c'est à la limite d'être mal poli. Puis, sais-tu quoi? L'autre jour, il est pas allé. Puis c'est vrai qu'il a eu tort, puis ça l'a fait reprocher. Il en a mangé toute une. Mais il aurait pu jamais y aller. Dans votre communauté, dans 99% des villes et villages du Canada, ou 98% là, durant un mandat de 10 ans, il sera jamais allé. Dans 98% des villes et villages, le premier ministre sera jamais allé.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais... À mon avis, là, ils ont été. Pour tout ça, on l'a planté en masse, Justin Trudeau. Mais là, aujourd'hui, il était rendu. Il a fait toute la route, il était rendu là-bas. Ça m'a pas impressionné de les voir aussi presque mal poli à son endroit.
Et on va attendre aussi les résultats de ce référendum en Alberta, Mario, parce qu'aujourd'hui, on vote sur plusieurs plans, bon, notamment au municipal en Alberta, mais. On veut consulter la population pour savoir et pour avoir un mandat pour renégocier la Constitution canadienne, pour revoir la péréquation, donc la fameuse péréquation, ces transferts que le fédéral envoie aux provinces. Le Québec touche à peu près 10 milliards par année. Cette année, ça devrait tourner autour de 13 des 21 milliards de dollars. C'est un référendum sur à quel point ils trouvent que le Québec profite de leur grande générosité.
Non, mais c'est un référendum beaucoup sur le Québec. Il ne faut pas nous autres se leurrer. Les deux frustrations sont les suivantes. L'Alberta dit, nous, si on contribue autant à la péréquation, c'est parce qu'on fait de l'argent avec le pétrole. Mais, ils disent, OK, on en donne, on en paye de la péréquation, puis ça va aux provinces les plus pauvres, puis le Québec récolte sa part. Là où ça accroche, OK, mais le Québec, eux, là, quand nous, on a besoin d'aide pour mieux vendre notre pétrole, quand le pétrole se vend mal, qu'on aurait besoin d'un pipeline, par exemple, pour l'acheminer vers l'est du Canada, alors là, le Québec veut pas sur son territoire. Le Québec veut l'argent du pétrole, mais veut pas le tuyau qui fait passer le pétrole. Deuxième chose, il y a une réaction aux politiques sociales du Québec. Les CPE, c'est peut-être le plus gros symbole, mais il y en a d'autres, là. Que le Québec, on se paye ceci, cela, des garderies à 8 piastres, puis en veux-tu, en voilà. Et ils disent, c'est quand même bizarre, nous, l'Alberta, on est la province riche, on paye. Avec cet argent-là, le Québec se paye des services, se paye des cadeaux, qu'on se paye même pas à nous-mêmes. Mais bon, ça, ce raisonnement-là, je le comprends, là, mais il y a des petits raccourcis parce que l'Alberta se paye aussi des choses. Exemple, de décider que dans ta province, il y aura 0% de taxes de vente, c'est une décision. Là, tu pourrais implanter une taxe de vente et payer des garderies avec ça. Il y a des choix politiques différents qui ont été faits, mais je comprends que quand tu es contributeur... Moi, s'il y a une certitude que j'ai, c'est que si c'était l'inverse, mettons que c'était le Québec là, qui avait une ressource naturelle qui générait énormément d'argent, qu'on payait de la péréquation, puis qu'il y a une province dans l'Ouest qui en ramassait les trois quarts, c'est sûr qu'on chialerait.
Ouais.
C'est sûr qu'il y aurait eu un référendum au Québec pour couper la péréquation. Mais c'est pour ça que je me garde quand même, malgré que je pense que ça ira pas loin, cette histoire-là, je me garde une petite gêne par rapport à l'Alberta. Mais on s'entend que le référendum, là, au pire, il va passer, oui, à 65% ce soir.
Ah
oui. Puis,
mais c'est pas une obligation pour M. Trudeau.
Ah, ben non. Trudeau va noyer le poisson, il se passera pas grand-chose avec ça. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie, Alexandre.